Dans le silence au fond, merci. Donc on va bientôt commencer. Donc merci à tous, encore une fois. Et donc je laisse la parole à Héloïse.
Bonsoir. Merci à tous pour votre présence. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Je voudrais remercier vraiment les étudiants de l'association La CASA, les étudiants de sociologie, qui ont organisé ce débat. Je trouve ça vraiment bien de pouvoir avoir des espaces de débat en dehors de l'université où on peut échanger dans d'autres cadres. Je pense aussi que c'est plus que jamais d'actualité, notamment dans le contexte qu'on connaît en France depuis les attentats de Paris, de pouvoir parler de démocratie, de défense de la démocratie, de défense des droits sociaux, des libertés publiques et de lutte contre les inégalités socio-économiques. Et c'est de tout ça dont on va parler en fait avec Podemos. Alors, ce que je vous propose ce soir, en fait, c'est de vous présenter un livre que je viens de publier en début novembre sur Podemos, sur l'expérience espagnole. Et je vais d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi c'est intéressant, enfin pourquoi j'ai trouvé intéressant d'écrire un livre en français sur Podemos. Il me semble que c'est, on va le voir, hein, c'est une expérience qui est très liée, hein, au contexte que connaît l'Espagne, hein, au contexte de crise économique, sociale, politique que connaît l'Espagne. Et en même temps, c'est une expérience qui s'inscrit dans un contexte européen plus large. Hein, c'est-à-dire, parmi les, ce qui va nous intéresser, c'est le fait que Podemos, c'est un parti qui va émerger en Europe contre les politiques d'austérité, hein, face à la crise économique, et qui va s'inscrire notamment dans la continuité, hein, de partis qui vont être aussi anti-austérité, par exemple, le cas de Syriza au pouvoir en Grèce. Il y a aussi d'autres partis qui émergent. Par exemple, c'est le cas du Bloco de Esquerda au Portugal, qui a recueilli plus de 10% aux dernières élections législatives début octobre et qui appuie la constitution d'un gouvernement de gauche au Portugal. Donc ça, c'est un premier élément qui me semble intéressant. C'est le fait, voilà, qu'on ait l'émergence d'un nouveau parti anti-austérité en Europe. Après, il y a un deuxième élément qui me semble aussi intéressant dans un contexte de montée de l'abstention, hein, partout en Europe. Podemos, c'est un parti qui remobilise des électeurs qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus. Hein, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées juste après les élections européennes en mai 2014, les premières élections où se présente Podemos. Et il y a un enquêté sur quatre qui dit ne pas avoir voté ou ne plus se souvenir pour qui avoir voté aux dernières élections européennes, aux dernières élections législatives en 2011. Donc ça va être en fait un parti qui va avoir une capacité de représentation, hein, d'une partie de la population qui ne se retrouvait pas dans l'offre partisane existante et qui va se retrouver. Dans ce parti, c'est notamment un parti qui va beaucoup attirer les jeunes. Alors, si on regarde le profil, alors j'ai un peu passé, bon ça je vous parlerai de ça après. Si on regarde le profil des électeurs de Podemos, là c'est un sondage récent qui a été réalisé en Espagne. C'est principalement les jeunes en fait qui vont voter pour Podemos. Et en fait, la propension à voter pour Podemos décroît à mesure qu'on avance dans l'âge. Alors, c'est notamment avec un slogan très mobilisateur que Podemos a réussi un premier succès électoral, on va dire, en mai 2014, à ces élections européennes, qui est le slogan qu'on avait mis en sous-titre du Café Sociaux de ce soir, qui est « Quand est-ce que... » C'était quand, la dernière fois, vous avez voté avec espoir. Donc, on va voir, c'est une des caractéristiques de Podemos qui va être de transmettre un message très positif, un message d'espoir aux électeurs. Alors, il y avait un élément que je voulais vous dire, peut-être pour... parce que tout le monde ne connaît pas forcément très bien qu'est-ce que Podemos. Il faut voir, c'est un phénomène déjà qui est très récent. Hein, c'est un phénomène qui est très récent. C'est un parti qui n'a pas encore 2 ans, hein, qui a été lancé le 17 janvier 2014. On n'entend pas très bien. Donc, qui a été lancé il y a à peine 2 ans, qui a émergé, on va le voir, dans la suite du mouvement des indignés, hein, en Espagne, mouvement qui date de la mi-mai 2011. Et aujourd'hui, c'est l'un des principaux partis politiques en lice pour les élections législatives qui vont avoir lieu le 20 décembre. Hein, donc, ces élections qui vont renouveler le gouvernement en Espagne très, très prochainement. Et c'était la première image en fait, que je voulais vous montrer. parce que hier soir, il y a eu un premier débat télévisé entre les différents candidats qui pourraient accéder à la présidence du gouvernement en Espagne. Et Podemos a été un des partis représentés, ce qui était assez inenvisageable en fait il y a 4 ans, quand le mouvement des indignés a émergé, où le panorama politique espagnol en fait était monopolisé par deux partis politiques, hein, par le Parti Socialiste et le Parti Populaire. Et là, on va le voir, en fait, alors vous voyez, il y avait quatre postes pour ce débat, c'est un débat qui est organisé par le quotidien El País. Donc, le Parti Socialiste, Pedro Sánchez qui était présent, Mariano Rajoy, qui est le président actuel de l'Espagne, du gouvernement espagnol, qui a refusé de venir, et deux partis émergents, Ciudadanos et Podemos. Donc on va voir un petit peu quelle est okay, la place aussi de ces deux partis. Donc un phénomène récent qui a connu une expansion très rapide. C'est-à-dire que Podemos émerge en janvier 2014 pour au départ présenter une candidature pour les élections européennes de mai 2014. Et à ces élections européennes, Podemos a vraiment créé la surprise en remportant 8% des suffrages. C'est un parti qui a quelques mois seulement. Remporte 8% des suffrages, 5 postes de députés européens, enfin 5 sièges de députés européens, 4e parti espagnol, du coup. Il y a eu des élections ensuite, un an plus tard, en mai de cette année, en mai 2015, des élections régionales et municipales. Podemos est arrivé en 3e position dans 9 régions sur 15. Qui était appelé aux urnes. Par exemple, dans des régions comme celle de Madrid, des Asturies ou en Aragon, en remportant 20% des suffrages. Et quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, c'est le fait que dans le cadre de coalitions plus larges, Podemos a remporté des grandes villes en Espagne, notamment celle de Madrid et de Barcelone. Donc du coup, vous vous demandez comment est-ce qu'on peut expliquer un tel succès, et puis est-ce qu'il n'y a pas un risque d'essoufflement un petit peu de cette dynamique. Si on regarde, je vais vous parler un petit peu de l'évolution des sondages. Si on regarde depuis un an, Podemos a tendance à perdre un peu du terrain. Alors il faut se méfier toujours des sondages, il faudra voir vraiment les résultats aux élections. Mais un peu un essoufflement de la dynamique. L'objectif du livre, en fait, il est double. C'est à la fois un objectif de divulgation, hein, d'une recherche scientifique, d'une recherche que je mène depuis plus de 4 ans en Espagne, d'abord sur le mouvement des indignés, et puis sur les transformations du mouvement, ce qui m'a amené à m'intéresser à Podemos. Il me semblait que c'était un travail qui pouvait intéresser les chercheurs, les étudiants, mais aussi au-delà, notamment les militants, les gens qui sont intéressés par la politique. Et c'est pour ça que j'ai choisi donc, d'écrire un ouvrage qui se veut le plus accessible possible dans une petite maison d'édition parisienne, qui est une maison d'édition militante. Parce que le deuxième objectif, c'est aussi de contribuer à la réflexion politique, au débat public, sur les alternatives politiques dans le contexte européen et français, hein, qui est marqué par une forte montée de l'abstention, qui touche particulièrement, vous le savez, les jeunes et les classes populaires, et avec une forte poussée de l'extrême droite. Dans le cas français, on est à la veille d'élections régionales, et il y a assez peu de doute qu'il y aura un fort taux d'abstention, à la fois une forte montée de l'extrême droite, dans le contexte français. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est aussi de voir, donc il y a des questions plus scientifiques, si vous voulez, je vais vous parler un peu de l'enquête sociologique qui est derrière, mais il y a aussi des questions qui est de savoir est-ce que la gauche française peut s'inspirer de l'expérience de Podemos, même si elle est très liée à un contexte. Est-ce qu'il peut y avoir en Europe, avec Podemos, un autre gouvernement anti-austérité que celui de la Grèce, et qui pourrait contribuer à une réorientation des politiques de l'Union européenne? Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord vous présenter quelques résultats de l'enquête, vous expliquer un petit peu comment je l'ai menée pour qu'on soit un peu au même niveau de cibler d'informations sur ce qu'est ce phénomène de Podemos, d'où il vient. Et après, en fait, le choix aussi qui était en concertation avec les étudiants de la CASA, c'était d'essayer une grande place au débat, hein, pour qu'on puisse échanger, notamment sur l'enquête et puis aussi sur les implications politiques qu'elle peut avoir. Alors, pour vous dire un mot de l'enquête que j'ai menée, c'est une enquête donc, que j'ai menée principalement à Madrid depuis la fin mai 2011. J'ai commencé au départ, forcément dans l'optique de faire une enquête. En fait, j'ai été sur le terrain dès que le mouvement des indignés a émergé, une douzaine de jours après l'émergence du mouvement. Et en voyant ce qui se passait, il me semblait que c'était intéressant de poursuivre les observations. Donc c'est surtout beaucoup d'observations hein, qui sont derrière les analyses, c'est-à-dire l'observation du campement quand il a émergé donc à la Puerta del Sol. Vous savez, un mouvement des indignés, c'est un mouvement qui émerge le 15 mai 2011 à la suite d'une manifestation qui est convoquée par un collectif qui s'appelle Démocratie réelle maintenant et qui va avoir comme mode d'action donc la manifestation d'abord et l'instauration d'un campement d'abord à la Puerta del Sol à Madrid et ensuite dans d'autres villes espagnoles. Donc j'observais le campement, il y avait beaucoup d'assemblées publiques sur ce campement, donc j'observais beaucoup d'assemblées. Ensuite, le mouvement s'est décentralisé dans des quartiers de Madrid à partir du 28 mai 2011. Donc c'est à peu près à ce moment-là que je suis arrivée sur le terrain. J'ai commencé à observer plus particulièrement l'activité en deux quartiers qui sont ceux de Carabanchel et de Vallecas, qui sont des quartiers populaires dans le sud de Madrid, donc en observant les assemblées, mais aussi les différentes activités que les actions pouvaient organiser les indignés, par exemple des occupations d'immeubles pour créer des squats. Et ensuite, je me suis intéressée à Podemos, hein, quand le parti a émergé. Donc, en suivant les activités d'un cercle, alors le cercle de Podemos, c'est un peu l'assemblée locale de Podemos, si vous voulez, l'organisation à l'échelle locale. Et je me suis intéressée notamment à un cercle de Podemos à Parla. Parla, c'est une ville qui est dans la banlieue sud de Madrid, où j'avais aussi observé l'assemblée locale des indignés. Je me suis intéressée au congrès fondateur de Podemos, qui a été organisé en octobre 2014. Aussi à la campagne pour les élections régionales. Et donc, c'est les principales activités, si vous voulez, du parti. Vous allez voir, je vais aussi vous parler de quelques entretiens. J'ai réalisé des entretiens avec une quarantaine de personnes impliquées dans les indignés et ou à Podemos, avec l'idée de retracer les trajectoires d'engagement des participants. Et dans l'optique d'écrire le livre, j'ai également rencontré des fondateurs, des leaders nationaux de Podemos et des élus régionaux hein, qui ont été élus en mai 2015. Donc ce que je vous propose de voir pour lancer un peu la discussion et pour donner un peu des éléments sur qu'est-ce que ce phénomène, c'est répondre à trois questions, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer l'émergence de Podemos en Espagne. Pourquoi, question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Podemos a émergé en Espagne et pas en France, par exemple. Donc, comment expliquer que Podemos a émergé en Espagne? Ensuite, comment comprendre cette expansion aussi rapide? Quels sont les facteurs de succès, quelque part, la stratégie mise en place par Podemos? Et troisième élément, comment on peut comprendre le ralentissement de la dynamique qu'on peut observer notamment par l'évolution des sondages? Si vous voulez, quelles sont un peu les limites hein, aussi de cette expérience? Alors, pour commencer par comprendre, essayer de comprendre l'émergence de Podemos, mais aussi des indignés avant que Podemos émerge, on va voir que Podemos est très lié à l'expérience des indignés. Il faut prendre en compte la spécificité du contexte espagnol. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de comprendre l'intensité de la crise économique et sociale que traverse ce pays depuis 2008, et aussi la crise politique qui l'accompagne, avec un fort discrédit dans les principaux partis politiques. L'Espagne, c'est un des pays qui est le plus fortement touché par la crise économique, qui est liée à une explosion de la bulle immobilière, qui était, en fait, si vous voulez, juste avant la crise, l'économie espagnole était basée principalement sur le secteur de la construction, le secteur du BTP, bâtiments et travaux publics, avec énormément de construction. Et c'est ce secteur qui va s'effondrer après 2008 et qui va entraîner, première conséquence de la crise, une explosion du chômage. Hein, si vous regardez l'évolution des taux, on a un taux de chômage qui est 8,5% avant la crise, plutôt faible, et qui à partir de 2010 va être systématiquement supérieur à 20%, avec des pics qui vont presque au-delà d'un quart de la population active. Aujourd'hui, on a un peu plus de 22% de la population active au chômage. Donc, première conséquence social de la crise. Un deuxième élément qui est aussi très, très fort en Espagne, c'est le fait qu'on ait une multiplication des expulsions de logements. C'est-à-dire que les personnes, de ménages, se sont endettés pendant cette période de spéculation immobilière où les prix étaient très élevés, hein, surévalués. Et entre-temps, bah, il y a un certain nombre qui ont été au chômage, qui ont perdu leur emploi, et donc ils se retrouvent dans l'incapacité de payer leur crédit immobilier. Entre-temps, le prix de leur maison était complètement, leur appartement était complètement dévalué, donc c'est une situation en fait sociale complètement dramatique. Il y a un mouvement social important en Espagne qui est un mouvement de lutte contre les expulsions de logements, et ce mouvement qui s'appelle l'APA, la plateforme de victimes des victimes de Doucotec. Et l'APA estime à plus de 360 000 les expulsions de logements entre le début de la crise en 2008 et le premier trimestre 2012. Et si on regarde rien que pour le premier trimestre 2012, ça c'est les données officielles du gouvernement espagnol, il y aurait plus de 46 000 expulsions forcées, c'est-à-dire une moyenne de 517 expulsions par jour. Donc c'est vraiment une question qui est assez dramatique. Autre conséquence de la crise économique, l'augmentation de la pauvreté, augmentation des inégalités. Hein, le rapport entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres en Espagne, il était de 5,5 avant la crise, il est aujourd'hui de 7,5. C'est-à-dire que les 20% les plus riches gagnent 7,5 fois plus que les 20% les plus pauvres et ils se sont enrichis avec la crise économique. Les principales victimes de cette crise, ça va être les enfants. Des ONG comme l'UNICEF ont tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait 27,5% des enfants qui se trouvent sous le seuil de pauvreté. Et d'ailleurs, ces deux dernières années, il y a de nombreuses villes et régions qui ont réouvert les cantines scolaires l'été pour lutter contre la malnutrition infantile. Autre victime de la crise, les jeunes, qui sont très touchés par le chômage. Le taux de chômage des moins de 25 ans est à plus de 50%. C'est plus du double de la moyenne dans l'Union européenne, ce qui entraîne l'exil économique de nombreux jeunes diplômés. Là, je vous ai mis une campagne qui a été organisée par une organisation qui s'appelle Jeunesse sans futur, qui a été un des précurseurs du mouvement des indignés et qui a fait une campagne intitulée « Nous ne partons pas, ils nous virent ». En fait, c'était une réaction face à une ministre du gouvernement de Mariano Rajoy qui disait que si les jeunes partaient à l'étranger, c'était par goût de l'aventure. Alors, c'est pas parce qu'ils étaient touchés par la crise économique. Cette crise économique et sociale, elle se double d'une profonde crise politique, c'est-à-dire d'une perte de confiance totale dans les élus et dans les partis politiques qui sont au pouvoir depuis la période de la transition démocratique. La période de la transition démocratique en Espagne, c'est la période, en fait, qui va être entre la fin de la dictature, si vous voulez, la mort de Franco en 75, et la consolidation de la démocratie. Donc c'est entre 75 et 78, il y a une nouvelle constitution, il y a un pacte, si vous voulez, entre les principales organisations politiques et sociales. Et depuis ce moment-là, en fait, il y a deux partis qui alternent au pouvoir, que sont donc le Partido Popular, le Parti Populaire qui est de droite, et le PSOE, donc le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Or, ces deux partis, ils sont touchés par de très nombreuses affaires de corruption. Et ces affaires de corruption, elles sont en lien direct avec la période de spéculation immobilière qu'a menée à la crise économique. Un exemple d'affaires de corruption, financement illégal du Parti Populaire par les entreprises du BTP. Les hauts sommets d'État sont touchés. Mariano Rajoy, par exemple, aurait reçu 25 200 euros par an pendant 11 ans. Et ça touche tous les dirigeants du PP. Le PSOE n'est pas en reste. Il y a de nombreuses affaires de corruption qui touchent des élus du PSOE, notamment dans leur fief en Andalousie, où il y a toute une affaire qui concerne le détournement d'aides publiques pour les entreprises en difficulté. Donc en fait, le PP et le PSOE sont vraiment perçus par les Espagnols comme les co-responsables de la crise économique et de ses effets. Surtout que quand la crise économique émerge, c'est le PSOE qui est au pouvoir. Et donc du coup, c'est le PSOE qui va mettre en place les premières mesures d'austérité, les premières coupes budgétaires. Et donc ça va être ce contexte qui va expliquer l'écho qu'a rencontré le mouvement des indignés en Espagne. Vous savez, le mouvement des indignés, là aussi, après, s'est diffusé dans d'autres pays. Il y a eu un petit mouvement en France, il y a eu le mouvement Occupy aux États-Unis. Mais c'est vraiment en Espagne que ce mouvement a reçu l'écho le plus important. Alors, le mécontentement, il s'exprime donc d'abord dans la rue. Par exemple, si on regarde le nombre de manifestations déclarées, il a été multiplié par 5 entre 2008 et 2012. Donc on a une explosion de ces manifestations. Et parmi ces manifestations, en fait, celle du 15 mai 2011, donc celle qui va initier le mouvement des indignés, marque vraiment un tournant. On marque un tournant parce qu'elle est convoquée non pas par des partis politiques ou par des syndicats, mais par ce collectif d'organisation assez nouvelle. Elle va bien au-delà des cercles militants. Il y a des personnes déjà politisées dans le mouvement des indignés, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas politisés. Elle a un caractère intergénérationnel important. On a souvent présenté le mouvement des indignés comme un mouvement de jeunes, mais il n'y avait pas seulement des jeunes à la Puerta del Sol. Et un soutien populaire très large. Il y a eu des enquêtes d'opinion qui ont été réalisées un peu après le mouvement, en juin-juillet 2011, et plus des trois quarts des personnes interrogées se disent soutenir le mouvement. Donc c'est vraiment un mouvement qui a été au-delà des clivages politiques traditionnels. Et vous savez, dans le cas de l'Espagne, avec tout l'héritage, l'histoire de la guerre civile dans les années 30 et du franquisme, c'est un soutien qui est considérable. Alors, les revendications des indignés sont directement liées à la crise. Les revendications, c'est une dénonciation de la corruption des élus. Le principal slogan des indignés, c'est « ils ne nous représentent pas » à destination de ces élus. Une dénonciation du bipartisme, du système électoral. La revendication d'une démocratie réelle, ça va être le terme qui va être mis en avant, avec l'idée de l'expérimenter dans les assemblées sur les places publiques. Si vous voulez, après on pourra discuter un petit peu de comment s'organisaient les indignés, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Et aussi une revendication de plus de justice sociale. Et si je parle de ce mouvement des indignés, c'est qu'en fait on ne pourrait pas comprendre l'émergence de Podemos sans ce mouvement des indignés et sans ce qu'il a changé dans la manière de voir la politique en Espagne. C'est un lien qui est systématiquement mis en avant par les leaders, militants, sympathisants de Podemos que j'ai pu rencontrer en entretien et qui me disent tous, quand je les interroge sur ce lien avec les indignés, Podemos n'existerait pas sans les indignés. Les termes qui sont utilisés, les mots qui sont utilisés, c'est que les indignés seraient la germe, seraient la graine, le prérequis qui expliquerait l'émergence de Podemos. D'ailleurs, Podemos, dans son manifeste initial, fait une allusion directe au mouvement des indignés. Le manifeste s'intitule « Avancer ses pions, convertir l'indignation en changement politique ». Et on a vraiment une volonté de mettre en avant cette filiation avec les indignés. Par exemple, le 31 janvier 2015, donc cette année, Podemos a organisé une marche pour le changement à la Puerta del Sol, avec la volonté, bien sûr, de jouer sur la symbolique des lieux. Alors là, vous avez une photo, qui est une photo de la manifestation de la Puerta del Sol remplie lors de la manifestation du 15 mai 2011. Et donc, c'est le même visuel que cherchait à avoir Podemos lors de la marche du changement le 31 janvier 2015, en montrant le lien avec le mouvement des indignés. Pourtant, ce n'était pas forcément évident que les indignés débouchent sur un parti comme Podemos. Parce que les indignés, c'est un mouvement qui s'oppose assez frontalement au parti, aux syndicats, ce sont eux qui ne nous représentent pas, qui refusent la figure d'un leader, qui refusent le phénomène de délégation du pouvoir. Donc la filiation, elle n'est que partielle entre les indignés et Podemos. D'ailleurs, c'est des questions de recherche qui m'a intéressée, de savoir comment est-ce qu'un mouvement anti-parti et anti-leader a pu déboucher sur un parti politique avec un leader charismatique et une organisation, on va le voir, qui est très centralisée. Mais si les indignés ont eu un impact, c'est surtout, l'émergence de Podemos, c'est surtout que ce mouvement a eu un impact très important, un effet durable, en incitant de nombreux citoyens à remettre en cause tous les schémas qui étaient établis depuis la transition démocratique, depuis la fin des années 70, comme le bipartisme, comme l'exercice du pouvoir par les élites politiques. Et donc, en fait, la population, avec les indignés, commence à remettre en cause ce qui va de soi. On peut parler, quand je me suis intéressée aux trajectoires d'engagement des indignés, vraiment d'une prise de conscience, d'une capacité d'agir, ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, en espagnol, le mot c'est empoderamiento. En français, c'est un mot qui est assez difficile à traduire, souvent qu'on va traduire par l'idée de pouvoir d'agir. Et en fait, c'est l'idée de prendre conscience d'une capacité d'action individuelle et collective pour changer son quotidien, pour changer les choses. Et c'est vraiment ce qui est ressorti dans la trentaine d'entretiens que j'ai réalisés avec des indignés trois ans après l'émergence du mouvement. C'est cette question de l'infodérabilité. Il y a une jeune femme à Parla, qui est secrétaire générale maintenant de Podemos Parla, qui a 26 ans, qui a été dans le mouvement des indignés, qui me dit s'être réveillée en politique avec les indignés, et qui résume bien cette idée d'empoderamiento. Elle me dit, le mouvement des indignés a permis de voir que les problèmes n'étaient ni les miens, ni les tiens, mais qu'ils étaient collectifs. Et par conséquent, les solutions aussi. En fait, ceux qui ont pris activement part à ce mouvement des indignés se sont rendus compte de leur capacité, leur force collective, en fait, pour trouver des solutions à des problèmes qu'ils considéraient comme étant juste là, personnels, individuels. Ils ont vu que ces problèmes personnels, individuels, pas avoir de travail, avoir un risque d'être expulsé de son logement, ils étaient rencontrés par beaucoup d'autres. Et donc, si beaucoup de gens avaient ces problèmes, les solutions, elles devaient être collectives. Ces problèmes qui devaient faire l'objet d'un traitement politique. En fait, je vais vous donner un exemple qui illustre bien ce processus d'empoderamiento. C'est le cas d'une femme à Carabanchel, dans le quartier de Carabanchel, qui est une femme de ménage équatorienne de 36 ans. Et donc, elle vit dans ce quartier au sud de Mali. J'ai fait un entretien avec elle juste avant les élections européennes, hein, donc au printemps 2014. Elle dit qu'au départ, elle a été méfiante à l'égard des indignés. Elle n'a pas été sur le campement de Puerta del Sol. Elle avait en tête la définition du journal télévisé. Je la cite, un groupe anti-système, radical et violent. Mais en fait, sur les conseils des services sociaux, c'est ça qui est incroyable, sur les conseils des services sociaux, elle va se rendre à l'Assemblée sur le logement des indignés. Assemblée sur le logement qui se tient, tenez-vous bien, dans un squat. Un squat ouvert par les indignés. C'est même les services sociaux de la ville qui disent « Ah non, nous, avec les coupes budgétaires, on ne peut rien faire, mais par contre, peut-être que dans le squat, ils vont peut-être pouvoir résoudre votre problème. » Donc au départ, elle est un peu sceptique, hein, quand elle rentre dans le squat, elle se dit « Bon, si on ne résout pas mon problème par ailleurs, comment je vais le résoudre ici ?» En fait, le problème qu'elle a, c'est que depuis son mari est au chômage, elle n'arrive pas à payer son crédit immobilier, hein, comme beaucoup d'Espagnols. Et donc, elle va commencer à s'impliquer, non seulement dans l'Assemblée sur le logement, mais aussi dans toutes les assemblées, toutes les actions des indignés, alors qu'elle a très peu d'expérience militante préalable. C'est pas quelqu'un qui est très politisé. Et elle me raconte en entretien comment elle était au départ tétanisée face au directeur de la banque, pour essayer de trouver un problème à son incapacité à rembourser son crédit immobilier. Mais explique qu'avant, j'y allais pratiquement en suppliant le directeur. « S'il vous plaît !» Elle se met à rire et puis elle fait le signe de la supplication. Et maintenant, c'est plus ça. Maintenant, on sait et on est conscient que ça a été une escroquerie. On ne se sent plus coupable, on n'y va plus avec ce « s'il vous plaît », ni en leur demandant quoi que ce soit, mais on va exiger, elle insiste sur ce mot, on va exiger d'eux la solution. Et en fait, avec les indignés, Maria a pris conscience de sa capacité d'agir individuelle et surtout collective face aux institutions. Elle m'explique, la banque ne voulait pas négocier avec moi. Moi toute seule, ils ne voulaient pas m'écouter. Même pas une proposition, rien. Ils ne voulaient pas me recevoir. Au contraire, maintenant, quand j'y vais avec le groupe, ils nous reçoivent à chaque fois. Et en fait, ce qui se passe avec, donc dans le cas de Maria, mais dans le cas de nombreuses personnes dans son cas, c'est qu'au départ, elle se sentait coupable, hein, de ne pas pouvoir rembourser ses dettes. Et aujourd'hui, elle va se mettre à critiquer le système économique, hein, qui est à l'origine de la crise. Et alors qu'elle a toujours voté pour le PSOE, le Parti Socialiste, elle envisage de voter pour Podemos aux élections européennes. Donc on voit que la situation, elle est favorable. Hein, avec ce mouvement des indignés, elle est favorable pour un parti qui chercherait à canaliser ce mécontentement. Et en fait, tout le mérite des fondateurs de Podemos, ça a été d'avoir su analyser, hein, ce que signifiait ce mouvement des indignés et de s'appuyer dessus pour lancer leur projet politique. Donc il faut bien voir que le mouvement que Podemos, c'est pas un parti qui est issu d'une des assemblées des indignés. Hein, ça aurait été impossible. Les décisions, elles se prennent par consensus dans les assemblées des indignés. Donc il aurait été impossible d'avoir un consensus sur cette question. Mais par contre, c'est un parti politique qui va s'appuyer sur une lecture de ce mouvement. On va voir, la plupart des fondateurs Podemos, ce sont des profs de sciences politiques qui ont pris le temps d'analyser ce que signifiait ce mouvement. Et notamment le fait qu'il est important de politiser les conditions de la vie quotidienne, le fait d'avoir des problèmes d'emploi, de logement, de s'appuyer sur cette politisation des problèmes de la vie quotidienne, et de mobiliser au-delà des clivages traditionnels. Donc ce que montre l'analyse, un des indices que fait Podemos, c'est que c'est pas le « il ne nous représente pas », c'est pas une contestation du principe de représentation en tant que tel, mais c'est une contestation, une dénonciation des représentants qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ont des pratiques qui ne nous représentent. Donc le Podemos n'est pas issu directement des indignés, mais il va rejoindre le sentiment d'une partie des indignés qui est la nécessité d'entrer dans le jeu électoral pour faire changer les choses. Hein, devant notamment le fait que les manifestations très nombreuses qui sont organisées n'ont quasiment aucun impact sur les politiques publiques. Les élections législatives en novembre 2011, c'est le Parti populaire qui les remporte. Hein, donc on a un approfondissement des logiques d'austérité en Espagne. Alors d'où est-ce que vient ce parti, hein, s'il ne vient pas des indignés? Parce qu'il s'appuie sur les indignés, ok, mais les fondateurs, ils ne sont pas issus des indignés. Donc je vous disais, en fait, il y a deux noyaux qu'on peut repérer dans les fondateurs de Podemos. C'est un premier noyau, puis un noyau d'intellectuels. Ce sont des professeurs de sciences politiques qui viennent de l'université La Complutense à Madrid et qui ont un certain nombre de points communs. Alors, parmi leurs points communs, ce sont pour la plupart des trentenaires. Ils sont précaires, ils ont des situations précaires au sein de l'université. Ils viennent de familles politisées. La plupart qui ont milité sous le franquisme, ont lutté contre le franquisme, ils ont eu eux-mêmes des trajectoires militantes assez similaires. La plupart, quasiment tous, ont milité à Izquierda Unida. Izquierda Unida, ça veut dire la gauche unie. C'est un peu l'équivalent du front de gauche. C'est une coalition qui date de 1986, dont la principale composante est le Parti communiste espagnol. Mais ils sont très déçus, Izquierda Unida, ils veulent faire autre chose. Et ce sont aussi des gens qui se sont beaucoup mobilisés dans les mouvements étudiants et altermondialistes. Ces jeunes professeurs de sciences politiques, ils ont déjà une idée, un projet de représentation politique alternative avant qu'émergent les indignés. Et ce projet, il est notamment inspiré des expériences latino-américaines au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Expériences qu'ils ont analysées de très près. Donc l'une des figures que vous connaissez peut-être de ce noyau intellectuel, c'est Pablo Iglesias, le leader de Podemos, celui que vous voyez au milieu de la photo, qui est un professeur de 36 ans, qui a milité à 14 ans aux Jeunesses communistes, dans une tradition politique familiale, ses parents sont à la gauche unie, et qui a milité dans le mouvement altermondialiste et a fait sa thèse sur le mouvement des désobéissants, hein, donc en Italie et en Espagne. Deuxième noyau qu'on va trouver, c'est un noyau qui va être plus militant. Enfin, le premier est militant aussi. Hein. Et celui-là, c'est un noyau en fait, qui vient d'un petit parti qui s'appelle Izquierda Anticapitalista, la gauche anticapitaliste, qui est là l'équivalent du NPA en France, des gens qui vont être assez impliqués dans le mouvement des indignés, peut-être plus que les précédents, et qui vont se rendre compte qu'il faut faire autre chose après le mouvement des indignés que ce qu'ils faisaient jusque-là. La figure, là, c'est plutôt Teresa Rodriguez, qui est une professeure des collèges de 33 ans, qui a investi dans de nombreux mouvements, notamment la Marée Verte en défense de l'éducation publique, qui est un mouvement qui émerge après les indignés, et qui va représenter l'aile critique du parti, et qui dirige Podemos en Andalousie, hein, les députés en Andalousie. Alors, on va aussi avoir des militants qui ont des trajectoires différentes, par exemple, des militants qui viennent de l'APA, ce mouvement contre les expulsions de logements. C'est le cas par exemple de Rafael Mayoral et René Montero qui sont aujourd'hui parmi la garde rapprochée de Pablo Iglesias et qui ont vu les limites en fait de leur action en dehors des institutions. J'ai fait un entretien avec les deux et les deux me disent nous on veut bien arrêter les expulsions de logements, le problème c'est que arrêter une expulsion de logement, hein, c'est quand il y a une expulsion de logement, faire une manifestation devant la maison et faire en sorte d'empêcher l'expulsion. Et souvent, bah, elle est reportée 3 mois après, et puis au bout de 3 ou 4 reports, bah, finalement, les gens seront expulsés. Mais dis-moi, je veux bien arrêter l'expulsion de logement, mais ce que je veux surtout, c'est changer la loi et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'expulsion en Espagne. Donc on a comme ça beaucoup de reconversions militantes. Hein, des gens qui sont dans des organisations, dans des mouvements sociaux, et qui vont entrer à Podemos. Donc on voit, hein. Première question, comment est-ce que émerge Podemos? Que Podemos n'est pas directement issu des indignés, qu'il est un projet qui est lancé par des personnes qui étaient déjà politisées auparavant, mais c'est le mouvement des indignés qui explique l'écho que va rencontrer Podemos. Et on va voir, aborder la deuxième question, que son expansion va résider aussi dans une stratégie politique, stratégie qui va notamment consister à rompre avec un certain nombre de tabous de la gauche, et notamment de l'extrême gauche. Alors, on peut résumer cette stratégie de Podemos en trois idées que je vais vous annoncer, puis on va un peu les développer. Première idée, ça va être de se débarrasser du discours et des références traditionnelles de la gauche minoritaire. Donc un renouvellement, on va voir, du débat politique. Deuxième idée, affirmer la possibilité d'une alternative politique face à l'austérité. Et troisième idée, construire la figure d'un leader charismatique par une utilisation stratégique à la fois de la télévision, des sondages et des réseaux sociaux. Donc on va voir, c'est des idées qui sont pas mal en rupture avec les pratiques et les discours de l'extrême-gauche dont ils sont issus. Pablo Iglesias résume bien ironiquement à cette stratégie en disant « Si tu veux réussir, ne fais pas ce que la gauche ferait. » Donc première stratégie, ça va être de refuser de se positionner sur l'axe gauche-droite. En disant « C'est pas le clivage le plus important. » Le clivage le plus important, c'est un clivage qui oppose ceux d'en haut contre ceux d'en bas, les élites contre les citoyens, le peuple contre la caste. Caste, terme que beaucoup utilisé par Podemos. Et en cela, en fait, Podemos va reprendre le discours des indignés. Alors, c'est vraiment là, dans la filiation entre les indignés et Podemos, c'est un élément qui est assez important. Vous voyez, là, c'est une petite pancarte qui était sur le campement de la Puerta del Sol, où on oppose les ciudadanos, les citoyens, aux banquiers, aux politiques et aux juges. On retrouve aussi cette idée dans le slogan d'Occupy. Vous savez, le slogan d'Occupy, nous sommes les 99%. Hein, cette idée qu'on oppose la minorité à la majorité. Alors c'est quelque chose qui peut surprendre, dans le contexte français en tout cas. Hein, si on regarde dans le contexte français, cette opposition en France, elle est plutôt mobilisée par le Front National, hein, qui va aussi avoir un discours qu'opposent les élites, la caste, au peuple. Mais la grande différence, en fait, c'est que toutes les mesures sociales qui sont préconisées par le FN en France, elles sont systématiquement passées au filtre de la préférence nationale, notamment ce que l'analyse Alexandre Guézé dans ses études sur le Front National, alors qu'on n'a aucune trace de cet argument xénophobe chez Podemos, dans le discours de Podemos. Au contraire, hein, la politique de Podemos à l'égard de l'immigration est une politique qui est diamétralement opposée à celle du Front National, et qui va être beaucoup plus proche de Syriza, par exemple, dans l'approche. Alors du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils refusent de se positionner sur cet axe gauche-droite, alors que la plupart viennent de la gauche, hein, c'est tous des gens qui viennent de la gauche unie, pour la plupart des fondateurs, et que Syriza, par exemple, se définit, elle, comme une coalition de la gauche radicale. Enfin, c'est ce que signifie Syriza. Et en fait, le principal argument qui est mis en avant par Podemos, c'est le fait que cette opposition entre la gauche et la droite ne permet pas de remporter les élections. On va voir, c'est un objectif qu'ils vont viser, hein, le fait de gagner, pas seulement de se présenter, mais de gagner. Et en fait, que c'est une division qui serait surtout utile aux partis politiques majoritaires et aux médias pour cataloguer un parti d'extrême gauche ou de gauche radicale afin de lui assigner une place marginale dans l'espace politique, en disant vous, c'est l'extrême gauche, donc c'est cette petite place qui n'arrivera jamais au pouvoir. En plus, ça serait un clivage qui ne serait plus utile, selon les leaders et aussi de nombreux militants de Podemos, pour défendre une alternative politique aujourd'hui, parce que le concept de gauche a perdu de son sens. Il y a des militants de Podemos qui me disent « Ouais, d'accord, le gauche, c'est bien, moi je me sens de gauche, mais en même temps, qu'est-ce qu'est de gauche ?» Le Parti Socialiste qui a mis en place les premières coupes budgétaires se définissent aussi de gauche. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on met en avant ce clivage-là? Donc en fait, il y a tout un travail qui va être élaboré par Podemos pour travailler sur les mots et les concepts. J'ai fait par exemple un entretien avec Roque Lago, qui est un leader national de Podemos, qui a été responsable de l'école itinérante qui a été mise en place à l'été 2014 à l'égard de tous les cercles de locaux de Podemos. Et il m'explique, j'essayais de montrer d'un point de vue théorique qu'il y avait une manière de rendre intelligibles des discours auxquels on était habitués dans les milieux militants. en les traduisant dans un langage plus inclusif. Par exemple, on peut parler d'anticapitalisme ou de démocratie économique, ce qui veut presque dire la même chose. Mais il y a un terme qui fait fuir et pas l'autre. Donc le renouvellement va concerner le vocabulaire, mais aussi les références et les symboles qui sont traditionnellement associés à la gauche, hein, par exemple les drapeaux, drapeau rouge, drapeau républicain, hein, dans le cadre espagnol, ou les chansons. Et en fait, toutes ces références identitaires de la gauche vont être abandonnées. Parce que l'objectif, ça va être de rassembler, en fait, au-delà des clivages politiques traditionnels et de rallier au projet politique de Podemos des gens qui ne se situent pas forcément à gauche, qui n'ont pas forcément des valeurs de gauche, mais par contre qui sont d'accord pour faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités socio-économiques en Espagne, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'expulsion de logement et que les gens aient davantage de travail. Alors cette stratégie, il y a quand même quelques références intellectuelles derrière cette analyse, et il y a notamment une référence qui est centrale, qui est celle d'Ernesto Laclau. Laclau, c'est un intellectuel argentin qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La raison populiste ». Et dans cet ouvrage, il montre l'importance des signifiants vides pour construire un projet contre-hégémonique. Alors en fait, un projet contre-hégémonique, c'est un projet qui s'oppose au projet dominant, au projet politique en place, et qui permettent en fait de définir un intérêt général auquel va s'identifier la majorité de la population. Si vous voulez, un projet qui permette de rassembler une majorité de la population. Et en fait, Ernesto Laclau explique dans ce livre que pour fonder un projet contre-hégémonique, il faut s'appuyer sur des signifiants vides. Donc en fait, des mots qui sont valables pour l'ensemble du spectre politique, qui ont une connotation très positive et qui peuvent faire l'objet de multiples interprétations. La citoyenneté, la démocratie, la dignité. Et en fait, ce sont des termes qui permettent d'unifier une grande diversité de demandes sociales, hein, qui sont insatisfaites et qui sont très hétérogènes. Donc si vous voulez, c'est un moyen, par exemple, ce que met en avant les indignés avec la démocratie réelle, c'est un moyen d'unifier les demandes qui peuvent être très disparates, venir de secteurs très hétérogènes, c'est un moyen d'unifier ces demandes autour d'un dénominateur commun. Donc c'est ce que va mettre en avant Podemos, ça va être la stratégie, si vous voulez, politique de Podemos. C'est un discours qui est plutôt bien reçu par les militants des cercles, quand je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ne pas se définir comme un parti de gauche, c'est plutôt quelque chose qui est bien reçu, ils le voient comme une initiative plus ouverte qu'Izquierda Unida. Même Teresa Rodriguez, qui vient de la partie même qui s'appelle la gauche anticapitaliste, me dit en entretien, n'importe quelle récupération des droits qu'on a perdu ces 7 dernières années suppose de remettre en question le système. Et il n'est pas nécessaire de s'appeler anti-système ou anticapitaliste. La radicalité est déjà tellement forte dans la simple lutte pour le sens commun. C'est ce que va revendiquer Podemos, lutter pour le sens commun. Et donc Podemos dit rechercher ainsi la centralité de l'échiquier politique. Alors attention, la centralité de l'échiquier politique, ce n'est pas le centre d'un point de vue idéologique, un parti qui serait au centre idéologique, mais c'est de mettre les préoccupations des citoyens au centre de leur projet politique. On peut se demander si cette stratégie politique permet réellement d'attirer des électeurs qui ne se définissent pas comme étant de gauche. Il y a un livre qui a été écrit en Espagne sur les électeurs de Podemos, et on peut y lire qu'en fait ces électeurs sont majoritairement de gauche. Plus de la moitié sont d'anciens militants du Parti Socialiste et d'Izquierda Unida, mais presque 10% aux élections européennes ont voté. Enfin, presque 10% qui a voté pour Podemos aux élections européennes avaient voté aux précédentes élections législatives pour le Parti Populaire. Donc c'est quand même un parti qui arrive aussi, qui ne se limite pas seulement à l'électorat de gauche, hein, même c'est principalement un électorat de gauche. Donc ça, si vous voulez, c'est la premier facteur un peu de succès, le fait de chercher à renouveler le débat politique. Le deuxième élément, c'est le fait d'affirmer la possibilité d'une alternative à l'austérité. Et là, c'est surtout d'affirmer, en fait, une capacité de gagner les élections. C'est-à-dire de ne pas seulement être une force d'appoint dans des alliances politiques avec le Parti Socialiste, hein, le rôle traditionnel que va avoir Izquierda Unida, mais la possibilité d'un réel d'un changement. Hein, si on voit, par exemple, dans le nom même de Podemos, nous pouvons, dans le slogan « Si c'est puede », « Oui, on peut », hein, qui est un slogan qui est repris des indignés du mouvement contre les expulsions de logements, on voit qu'il y a l'affirmation en fait qu'on peut gagner les élections. C'est quelque chose qui est possible et qu'on peut, pas forcément une force politique minoritaire. Et ça va être un facteur de mobilisation très important. Par exemple, Bellem, qui est une femme de 40 ans qui s'investit dans le cercle de Podemos à Parla, me dit ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que Podemos n'a pas émergé pour être dans l'opposition, mais pour gagner. Ce qui motive beaucoup les gens. Parce qu'il y a des partis en Espagne, par exemple Izquierda Unida, je le vois bien, ce sont des partis de perdants. Et donc, ça va être cette volonté voilà, de montrer une capacité de gagner, aussi un discours simple qui va être développé autour de quelques concepts clés, la démocratie, la souveraineté, les droits sociaux, avec fondamentalement, en fait, en termes de programme politique, un projet économique redistributif face au dogmatisme de l'austérité. Et donc on a en fait un discours qui est fondé sur la revendication d'un État social et de politiques redistributives. En gros, récupérer le terrain qu'a abandonné la social-démocratie. Par exemple, Podemos, exemple de proposition, va proposer un plan de sauvetage des citoyens, comme il y a pu avoir un plan de sauvetage des banques. Alors, je vais accélérer un petit peu pour qu'on ait plus de temps après pour discuter. Le troisième point qui est important dans la stratégie, je vous disais, c'est le fait de mettre en avant la figure d'un leader charismatique. Et donc de mettre en avant la figure de Pablo Iglesias. Là, c'est une rupture essentielle avec le mouvement des indignés qui refusait la figure du leader, qui cherchait à avoir des porte-parole tournants et pas de représentants. Et quelque chose qui est très symbolique, c'est le fait que sur les bulletins de vote pour les élections européennes, Podemos s'est choisi de mettre le visage de Pablo Iglesias. Et pourquoi est-ce qu'ils ont mis le visage de Pablo Iglesias? Parce qu'en fait, ils ont fait un sondage juste avant. Il y a une spécialiste des sondages à Podemos. Et le sondage disait que 50% des gens connaissaient Pablo Iglesias et seulement 8% connaissaient Podemos. Donc ils ont choisi de mettre en avant la tête de Pablo Iglesias. Alors bien sûr, c'est un certain nombre de limites hein, en termes de personnalisation de pouvoir, de déséquilibre politique en interne au sein du parti. Mais en même temps, c'est un moyen d'avoir un symbole qui permet, auquel plusieurs publics peuvent s'identifier, ce qui a permis d'atteindre un public beaucoup plus large. Par exemple, si on regarde la répartition territoriale du vote, on ne pourrait pas avoir cette répartition territoriale s'il n'y avait pas eu cette stratégie de communication derrière. Donc, utilisation stratégique, la figure d'un leader qui se construit principalement à la télévision. Podemos considère que la télévision, c'est le principal espace de socialisation politique de la majorité de la population. Et donc, ils vont investir cet espace de l'audiovisuel. Notamment, et même avant même les indignés, Podemos va avoir sa propre émission télévisée qui s'appelle La Tuerca. C'est une émission de débat politique. Et ensuite, ça va permettre à Pablo Iglesias d'être invité d'abord sur des chaînes de la TNT, ensuite sur des chaînes généralistes, ce qui va considérablement augmenter sa visibilité, sa popularité. Et donc là, on voit une grande différence avec les indignés qui étaient très réticents à l'égard de la télévision. Alors je terminerai sur quelles sont les limites de Podemos. On a vu comment est-ce que ça a émergé, comment est-ce qu'on peut comprendre l'expansion, notamment avec les stratégies de communication. Quelles sont aussi les limites de ce parti? Et comment est-ce qu'on peut expliquer un ralentissement de cette expansion? En tout cas, si on regarde les sondages, si on regarde les résultats électoraux, on a plutôt une expansion de Podemos. Mais c'est vrai que si on regarde les prédictions des sondages, en janvier 2015, Podemos était placé, donc vous voyez, c'est ce qu'on voit en violet sur le schéma, vous avez les différents partis politiques. En janvier 2015, ça c'est les enquêtes en fait du Centre de recherche sociologique d'Espagne. Et en janvier 2015, Podemos était placé en deuxième position dans les sondages. Il y avait même d'autres sondages qui étaient placés en première position. La question, c'était si les élections législatives avaient lieu demain, pour qui est-ce que vous voteriez? Et depuis, on a une baisse de Podemos dans les sondages, à un tel point que le parti ne serait plus en troisième position, mais en quatrième position après Ciudadanos. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce ralentissement de l'expansion de Podemos. Déjà, le fait qu'il y ait une campagne médiatique très forte contre Podemos à partir du moment où ils vont être au plus haut dans les sondages. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir des attaques de toutes parts, des médias. Et là, on voit bien que cette stratégie médiatique de Podemos, c'est une arme à double tranchant. C'est comme pour les mouvements sociaux. Les travaux notamment d'Éric Neveu qui montrent que les mouvements sociaux sont en position d'associer rivaux avec les médias. La médiatisation va certes assurer une visibilité qui est indispensable pour Podemos, mais en même temps, le traitement de phénomène dépend aussi et surtout de stratégies qui sont propres au mouvement journalistique. Donc on a un peu, si vous voulez, les médias qui vont se retourner contre Podemos. Podemos va être aussi victime de son propre discours. C'est-à-dire, à force de mettre en avant le fait qu'on va gagner, il y a une déception en fait face aux premiers résultats électoraux qui sont assez extraordinaires pour une formation qui est si jeune, mais ils ne remportent pas la première position. Par exemple, les élections, premières élections sur le territoire espagnol, c'est les élections régionales en Andalousie en mars 2015, et Podemos remporte 15% des suffrages. Ils n'avaient aucun député jusque-là, donc c'est une expansion qui est très forte. Mais ça peut être aussi démobilisateur. Quand on affirme qu'on va gagner puis qu'on se retrouve en troisième position, on peut avoir un discours à côté démobilisateur. Un autre élément qui paraît assez essentiel, c'est l'émergence d'un parti concurrent, Ciudadanos, qui veut dire citoyen en espagnol, et qui va proposer aussi un renouvellement de la politique, dans le sens où il va chercher à lutter contre la corruption, à avoir plus de transparence, sans remettre en cause les fondements des politiques économiques. C'est un parti libéral. Mais c'est un parti qui va beaucoup gêner Podemos, parce qu'en fait, il se situe sur le même terrain de la nouveauté, en se présentant comme une alternative aussi au parti traditionnel, un autre parti du changement. Et ce parti va connaître une croissance très forte. Aux élections européennes, il remporte seulement 3% des voix. C'est un parti qui a été créé en 2006, qui se trouve en Catalogne, où ils ont une position contre l'indépendance. Et en fait, aux dernières élections régionales qui ont lieu en Catalogne en septembre cette année, ce parti a fait un très bon score en défendant cette position contre l'indépendance. Et d'ailleurs, cette campagne pour les élections